Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2, épisode 36. Une Heure en Série, vous le savez, l'émission qui, chaque semaine, décrypte et analyse toute l'actualité des séries télé, toutes chaînes et plateformes confondues. Et ce soir, nous parlerons polar fantastique et mort-vivant avec The Grave sur Salto, serial séducteur et tueur en série avec The Serpent sur Netflix, et soap sociétale et conditions de la femme en Turquie avec Fatma Gül sur 6play.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, les travailleurs du 1er mai. J'ai même pas eu un bras muguet, hein, vraiment, tous des crevards. Je n'ai à vous le dire. Autrefois, quand même, on flattait le producteur et l'animateur, mais rien, maintenant, c'est terminé. Néanmoins, on les aime beaucoup. Ariane Allard de Cosette et de Positif.
Bonsoir
Ariane.
Bonsoir tout le monde.
Ava Kahn de Frenchmania. Et ça y est, on peut l'annoncer. Le numéro 2 est en kiosque, ou incessamment sous peu.
Sous peu, le 5 mai, il sera en librairie. On pourra le trouver. Et je me réjouis. Et j'espère que, voilà, ça va vous plaire.
Consacré au rapport entre Hollywood et les Français.
Tout à fait, entre autres, c'est le dossier thématique.
Absolument, ouais. Sur la télé, sur le cinéma, c'est formidable. Et puis, quand on parle de formidable, évidemment, on pense aussi à Benoît Lagan.
Bonsoir.
Que l'on retrouve dans le 5-7 de Mathilde Munoz le vendredi matin et dans Télé Matin. Alors, on a du courrier, c'est un courrier un peu alcoolisé. Je tiens à vous le dire, mais extrêmement drôle. Alors, dans la série, ils sont encore plus méchants que nous. Nous avons Agathe Philippe qui a regardé, sans nous avoir écouté, la série Salamandre sur Arte, une série que nous n'avions pas particulièrement soutenue, disons les choses telles qu'elles sont, et qui, dès la première scène, me dit-elle, la première scène d'où Jésus, j'ai ri, mais tellement ri, et je l'ai dit à voix haute, seule devant mon écran, mais nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde, sans déconner. Et je riais tellement, surtout le moment où, pendant le casse, là, il y a un type qui crie au fond. Oh, il a dû avoir mal, c'est sûr, il a mal. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça lui arrive comme ça, cette douleur? Et puis, Madame Boom, c'est la tuile, alors qu'ils étaient bien préparés, les mecs. Oh la vache, bon alors après, j'ai arrêté tout de suite et j'ai pris une bière. J'adore ce genre de réflexe. Marine Tanguy est un peu sur le même principe, mais elle sait. Sous la forme positive, elle nous recommande une excellente série qui s'appelle Frank of Ireland. Frank de l'Irlande, hein, parce que mon accent anglais est quand même toujours aussi pourri. C'est sur Prime Video, 6 épisodes de 20 minutes qui se savourent comme un bon Irish coffee. Je vous ai dit que ce soir, ça peut... Ou une pinte de Guinness au choix. Le protagoniste est un misanthrope trentenaire vivant à Dublin avec sa mère. Non, ça ne rappelle personne ici. Et autour duquel gravite une galerie de personnages hauts en couleur, une bande de brillants losers empêtrés dans des situations loufoques comme on n'en trouve que dans les comédies anglo-saxonnes, mais avec en prime ici le délectable accent celtique. Bonne dégustation.
Avec modération.
Avec modération, bien sûr. Nous sommes sur le service public et nous allons commencer tout de suite le premier débat. Alors, je remets mes lunettes. Voilà, vous savez tout sur les coulisses de l'émission. Nous allons commencer.
Vous voyez mieux.
Oui, hélas. Je vais peut-être les retirer maintenant que je vous ai en ligne de mire. The Grave, une série israélienne de 8 épisodes disponible sur Salto. Alors, prenons un accent un peu mystérieux. Trois squelettes sont découverts à la faveur d'un tremblement de terre. Bon, jusque-là, rien de bien particulier, jusqu'au moment où des analyses ADN sont effectuées pour tenter d'identifier les victimes. Énorme hic, les ADN prélevés correspondent à trois personnes qui sont toujours en vie. Le premier est un père célibataire hanté par le décès de son épouse. Le deuxième, une sorte de mentaliste pour show télé. Et la troisième, une jeune femme incarcérée pour meurtre. Imaginez un peu une variation entre X-Files, matinée de polar sociétal, et vous obtiendrez cette série atypique au postulat de départ on ne peut plus intrigant et qui, mais ça n'est que mon avis, malgré un léger ralentissement dans la dramaturgie aux deux tiers, parvient à maintenir non seulement son suspense, mais une narration souvent stupéfiante.
Ta maman est dans nos cœurs. Je me manque tout le temps.
On a devant nous une affaire de triple homicide.
Ce que nous avons découvert soulève de nombreuses questions. Le profil ADN d'un des squelettes correspond à 100% au vôtre.
Ils ont trouvé les corps. Ils ont commencé à mener leur enquête.
Tu as dit quelque chose. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la partie visible de l'iceberg.
Maman, je l'ai vu ce matin. J'ai même pas eu peur.
La réalité n'est pas celle que nous croyons.
Je connais ce gamin. Je l'ai déjà vu.
Maman, elle est là, sous cette pierre.
Moi, je crois qu'elle est pas ici.
The Grave est une série créée par Omri Given, scénariste sur la série Hostages et auteur au cinéma de 7 minutes au paradis avec dans les rôles principaux Liana Ayoun, Shalom Mikaelashvili et Nadav Metz. Alors, mesdames et messieurs, Votre mission, si toutefois vous acceptez de la relever, consistera à ne rien dévoiler, spolier, divulgâcher de cette série haute, effectivement, en rebondissement. Mais on souhaite le même plaisir, en tout cas celui que j'ai pris, à nos auditrices et à nos auditeurs. Côté de la presse, Le Monde parle d'une série complexe et haletante, et Les Inrecuptibles saluent une nouvelle prouesse sérielle made in Israël, entre thriller et surnaturel. Ariane Allard, qu'en avez-vous pensé ?
Beaucoup de bien. Je partage ce que vous avez dit pour le présenter. Alors, pour ne rien divulgâcher, je vais vous citer une phrase qu'on entend au quatrième épisode. Et c'est, y a un personnage qui dit « C'est tellement compliqué que je ne sais même pas par où commencer ». Je pense que ça représente assez bien la situation du spectateur, mais c'est pas du tout une critique négative de ma part. Au contraire, c'est vrai qu'il faut quand même s'accrocher. Hein, et accepter parfois de décrocher quelque peu, mais ça n'est pas... Moi, j'aime bien décrocher pendant les séries au long cours, reprendre encore un petit peu après. C'est un récit labyrinthique, mais qui reste, je trouve, et jusqu'au bout, mystérieux, original, parce que je trouve que l'idée de départ, elle est quand même assez géniale et assez excitante. Alors, certains diront, ouais, mais c'est invraisemblable, etc. Vous savez, les esprits chagrins ou très, très matérialistes. Mais évidemment que c'est invraisemblable, puisque ça parle de réalité parallèle, et que dès lors qu'on agite ce genre de choses, je crois qu'il faut quand même se rappeler que entre une fiction et un spectateur, il y a ce qu'on appelle un pacte. Mmh. Et soit on y croit, soit on n'y croit pas. Et je trouve que c'est exactement le genre de série qui défend ce genre de pacte. Moi, personnellement, j'y ai cru pour deux raisons. La première, déjà, c'est que comme beaucoup de séries israéliennes, il y a un côté assez austère, sans doute parce qu'il y a peu de moyens par rapport aux séries hollywoodiennes, et ça fonctionne très bien. Je trouve qu'il y a un personnage qui incarne complètement cette austérité et cette élégance, c'est le personnage de la fliquette qui s'appelle Ava. Bon, ça s'écrit pas comme Ava, ça s'écrit avec un H. Ouais. Et qui est une inspectrice peu soucieuse de plaire, ni de diplomatie. Et en même temps, voilà, elle est impeccable. Et comme cette série, je trouve qu'il y a une forme de tenue dans cette série qui est assez remarquable. Alors, même si on se perd dans les arcanes, je trouve que c'est pas grave. Ça reste haletant, déconcertant. Et pourquoi? Juste une chose, c'est que c'est un mélange de simplicité et de profondeur. Moi, c'est ça qui m'a touché le plus. Parce que ça questionne, ça pose des questions quand même dans notre rapport au temps, nos regrets. Et puis, bien sûr, c'est une série sur le deuil. Mmh. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que ce que fait par exemple quelqu'un comme Christopher Nolan, parce que c'est exactement les mêmes thématiques de ses films. C'est beaucoup moins tape à l'œil et c'est beaucoup plus juste et profond.
Je suis entièrement d'accord. Benoît Lagane.
Oui, complètement envoûté par cette série. C'est une série avec une dimension que n'aurait pas déplu à Rod Serling de la quatrième dimension, tant elle nous entraîne à chaque épisode de plus en plus près du mystère. Quand à mi-parcours il est révélé, il nous surprend à moitié, c'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit « Ah oui, mais on l'a déjà vu dans des séries américaines ». Mais justement, j'en reviens à ce que disait Ariane à l'instant, c'est-à-dire que on est dans une économie de moyens qui oblige du coup à aller, et c'est pour ça que je citais Rod Serling, à ce genre de série qui, avec peu d'effets, raconte beaucoup. Oui, c'est une série magnifique sur le deuil, c'est une série sur la dualité, qui on est, est-ce qu'on pourrait les choix de vie, pourquoi à un moment donné on fait tel ou tel choix de vie, il y a tout ça en fait dans cette histoire. Alors il faut la regarder, cette série, comme un simple thriller, je dirais, au départ, pour être vraiment pris complètement par le mystère de la série, être renversé et bousculé en permanence.
Elle a les apparences d'un thriller israélien, c'est un peu froid, avec une lumière un peu métallique, une mise en scène assez sobre.
Et on est vraiment dans ce que savent faire les Israéliens, c'est-à-dire un pitch parfait, un concept parfait qui peut du coup se vendre pour les remakes à l'étranger, mais qui en fait parle tellement de leur pays, de ce pays divisé, d'une société complètement meurtrie qui ne rêve que de notre pays alors qu'ils ont leur pays. Enfin, il y a tout ça, je trouve, en germe dans cette série sublime qui est du coup au début donc effectivement étrange mais dans le thriller classique, puis de plus en plus déroutante. Et moi, elle finit même par me bouleverser totalement. Et à la fin, je suis complètement ému par cette série et avec une fin qui nous laisse présager une saison 2, et là je suis ravi.
Qui nous la laisse même espérer. Avakaen, allez-vous vous joindre à ce concert de louanges ?
Ben oui, je bois les paroles de mes camarades pour rester dans la métaphore d'alcoolique.
Elle s'est arrêtée là, tout ça.
Non, mais alors, très honnêtement, au premier épisode, je me suis dit que ça allait passer ou casser, parce que ce premier épisode, justement, qui est un épisode d'installation, il donne une petite impression de déjà-vu, du polar à la cold case, quoi, pour le dire vite. Donc on a une enquête, des squelettes, un chat noir, une alliance des secrets déterrés. Sauf que, vous l'avez dit, c'est beaucoup plus retors que ça en a l'air. C'est une enquête tout à fait inhabituelle et dès que le fantastique s'infiltre, la série prend une dimension vraiment, vraiment différente. Donc voilà, on flirte avec les frontières du réel et du surnaturel. Il y a une ambiance aussi de fin du monde, hein. La terre tremble et on fait remonter à la surface donc des choses trop longtemps dissimulées. Des plaies se rouvrent chez certains personnages. Le doute assaille les esprits les plus cartésiens, c'est ce que tu disais, Ariane. Il y a toute une galerie de personnages vraiment passionnantes. Un jeune père qui est garde forestier, qui élève seul son fils et qui est hanté donc par la mort de sa femme. Le gamin, on l'a entendu dans la bande-annonce, dit voir des fantômes, mais sans en être effrayé. Donc il y a une inspectrice de police qui est pugnace, qui est têtue, qui enquête sur cette affaire donc de squelettes. Et donc voilà, donc on est complètement pris dans ce tourbillon d'intrigues qui en fait est toutes regroupées, enfin qui sont toutes regroupées. C'est un faisceau et il y a une source qui converge. Donc voilà, ce dont on se rend compte très vite, c'est quand même des qualités d'écriture de la série. Son suspense, je le trouve parfait. J'aime beaucoup aussi les variations musicales. On entend de la musique électro et puis parfois du jazz et puis parfois du Vivaldi. Quant à la mise en scène, elle est très calibrée. Les scènes d'action, je les trouve solides. On sent bien effectivement que le budget n'est pas celui d'un blockbuster, mais il y a des choix de cadrage, des prises de vue et de montage aussi que je trouve qui donnent du tonus
quoi,
à cette série. Absolument.
Ouais.
C'est ça, et je trouve que ça donne vraiment du tonus donc à cette série qui est étrange, qui a plusieurs couleurs, qui a plusieurs tonalités. Donc voilà, la réalité n'est pas celle que nous croyons, on l'a entendu dans la bande-annonce, et bien cette phrase, elle va nous obséder pendant tout le visionnage, et je me réjouis effectivement qu'il y ait une saison 2.
Et moi je me réjouis de ce coup de cœur unanime de l'ensemble de la rédaction d'Une Heure en Série pour The Grave, disponible donc sur la chaîne, la plateforme Salto.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Que c'est beau, Ain't No Grave de Johnny Cash, une chanson qui offrait son titre à un album posthume sorti en 2010, soit quelques jours avant les 78 ans du chanteur. Évidemment, cet anniversaire, il n'a pas pu le fêter. Une sublime, pour moi, entrée en matière, en forme de reprise d'un classique du gospel américain, composé au début des années 40 par Claude Ellie. On n'est pas bien sûr, mais en tout cas, on lui prête la paternité de ce titre. Un titre en forme d'épitaphe, « Aucune tombe ne peut retenir mon corps », c'est quand même sublime, auquel Johnny Cash apporte ici, pour moi, une bouleversante est pure.
France Inter. Une heure en série.
Et le moment d'un petit conseil littéraire. Il va y avoir plein de ponts là pendant le mois de mai, plus le confinement, plus le couvre-feu, donc on a le temps de lire. Et je vous recommande Une falaise au bout du monde de Carl Nixon, paru aux éditions de l'Aube Noire. Très très bonne maison d'édition. Moins un polar, bien qu'il travaille une époustouflante forme de suspense narratif, qu'une tragédie à ciel ouvert au cœur du territoire et de la culture maori. Le roman de Carl Nixon pose d'emblée un postulat mystérieux qui n'est pas sans faire écho à celui de The Grave dont nous venons de parler. 1978, la famille Chamberlain, un couple et leurs quatre enfants, est victime d'un terrible accident de voiture. Enfin, seul le lecteur sait réellement ce qui leur est arrivé, car pour leurs proches, leur évaporation demeure un mystère absolu. Mystère que va tenter de percer la sœur de l'épouse pendant plusieurs années avant de renoncer définitivement au début des années 80. Quelle est donc passe à ce reprise lorsque, 30 ans plus tard, on la prévient de la découverte des ossements de l'un de ses neveux? Un décès survenu de nombreuses années après la date officielle de la disparition de la famille. Qu'est-il vraiment arrivé? Quel fut le destin de ses proches? À côté de quels indices est-elle passée lors de ses nombreuses investigations en Nouvelle-Zélande? Autant de questions culpabilisatrices qui traversent et édifient ce récit mémoriel, échafaudé sur plusieurs années et raconté à partir de différents points de vue, et qui s'achève sur deux chapitres particulièrement glaçants et bouleversants, catharsis de cette poignante histoire de survie que je vous mets au défi d'abandonner au cours de sa cruelle conclusion. Une falaise au bout du monde, Carl Nixon, aux éditions de l'Aube Noire. Deuxième débat, The Serpent, une série britannique en 8 épisodes, disponible sur Netflix. Thaïlande, 1976, tout commence avec la découverte des corps calcinés de deux ressortissants hollandais. Un jeune attaché de presse de l'ambassade des Pays-Bas décide d'enquêter sur leur mort, allant à l'encontre de sa hiérarchie peu intéressée par le destin tragique de ces deux hippies. C'est ainsi que le jeune fonctionnaire, un peu coincé, ne tombant jamais la cravate malgré la torpeur ambiante de Bangkok, va remonter la piste d'un tueur en série, un homme ayant vraiment existé et qui, durant les années 70, assassina une vingtaine de touristes occidentaux. Un homme surnommé le Serpent en raison de sa froideur, de son impassibilité et de son absence totale de scrupules et de culpabilité. Mais la série s'intéresse non seulement à cette figure diabolique, mais également à ses victimes et complices, dont une jeune Québécoise prénommée Marie-Andrée, mais que le prédateur rebaptisa Monique, offrant ainsi une double personnalité à cette jeune femme aussi inquiète qu'inquiétante.
T'as la belle vie ici grâce à moi. J'ai pas été gentil avec toi. Les amis sont toujours les bienvenus à la maison.
Tu nous présentes, Ajay?
C'est toi qui vends des pierres.
C'est lui qui vend les pierres. Mon mari, Alain.
Les autorités avaient préparé son extradition.
On a développé un réseau de courtiers dans toute l'Asie et l'Europe de l'Ouest.
C'est pour ça qu'on peut se permettre d'offrir des prix si attractifs.
À l'amitié. Je recherche deux personnes. Je travaille pour l'ambassade des Pays-Bas. Leurs familles n'ont aucune nouvelle depuis plus de 2 mois. J'ai des lettres qu'ils ont écrites à leur famille, dans lesquelles ils disent tous les deux avoir rencontré un marchand de pierres précieuses français basé à Bangkok.
Je m'attendais à ressentir de la culpabilité, mais rien du tout. Je me suis senti libre.
The Serpent est une série construite sur deux temporalités, celle des crimes et celle de l'enquête, et dont l'écriture repose sur un principe de va-et-vient entre passé et présent. Principe pertinent ou pas, ce sera à vous de me le dire. La série est écrite par Richard Warlow et Toby Finlay, tous les deux auteurs sur la série Ripper Street, avec dans les rôles principaux, on l'a reconnu à la voix, Tahar Rahim, Billy Hall, que l'on avait vu dans Mother, Father, Son, ainsi que Jenna Coleman, inoubliable compagnonne du Docteur Who, et que l'on a vu récemment dans The Cry. Côté de la presse, pour les Inrocks, c'est une de ces séries qui vous cueille sans crier gare, et dont le venin ne se dissipera qu'après en être venu à bout. C'est à peu près ce que j'ai trouvé plus positif. Pour première, la photographie du serpent met à mal la machine à suspense, rendant grotesques des scènes qui devaient être un sommet de tension. Et pour Télérama, qui porte le coup de grâce, un personnage intrigant au cœur d'un thriller maladroit et répétitif, impassible, froid, sans scrupules et sans émotions.
Je sens venir.
Voyons. Vous vous êtes reconnu vous-même, Benoît, prenez la parole.
Alors écoutez, c'est très compliqué cette série. Le premier épisode, je le trouve extrêmement complexe parce que, alors vous disiez, oui, il y a ces allers-retours entre passé et présent. Alors le problème, c'est que c'est le passé du passé. Enfin, c'est entre le passé et le passé.
Ah, c'est Rubik's Cube.
Hein. C'est voilà, le passé antérieur.
Voilà, donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver au départ, parce qu'il c'est pas franc, en fait, voilà, la distinction entre les deux époques. Donc, bon, on finit par s'y retrouver. Mais mon problème, finalement, celui-ci, au fil des épisodes, bon, ça va. On va dire que ça devient plus simple à comprendre. Tarahim, pas mauvais pour autant, sauf qu'il a un problème de maquillage, un problème de moumoute, qui fait que du coup, il est, son visage qui peut être tellement vivant et très fermé. Du coup, on a aucun intérêt pour ce personnage et on aimerait bien essayer de... On espère du moins que la série va nous permettre de le comprendre, de le connaître mieux. Et or, jamais la série nous permet de le comprendre psychologiquement. Alors, c'est deuxième gros problème. Troisième gros problème, c'est que c'est une série quand même avec un casting international. Donc ça parle toutes les langues. Mais alors, bon Dieu, pourquoi on ne va pas chercher une comédienne québécoise pour jouer une québécoise? Alors moi, j'aime beaucoup Jada Coleman. Elle fait tout ce qu'elle peut, mais dès qu'elle parle français, elle ne parle pas du tout québécois. Et elle parle même pas français. Enfin, c'est très compliqué.
C'est inaudible.
Donc tout ça fait que ça de ce vœu une grande série prestigieuse et tout ce que je viens de dire là démontre qu'en fait tout est raté dans le côté prestigieux. Alors après, une fois qu'on a compris que au bout de quelques épisodes, l'histoire va nous être racontée d'un point de vue différent dans les premiers épisodes, on se dit ah, on a compris un truc génial, c'est-à-dire qu'on va recomposer le puzzle parce que dans l'épisode 1, c'est plutôt le serpent, dans l'épisode 2, on va être avec l'ami québécoise, l'épisode 3, etc. Sauf qu'au bout d'un certain temps, il délaisse complètement ça et il bâcle la fin où tout est révélé à la fin, il y a la course-poursuite et puis on se retrouve au bout de ces 8 épisodes en se disant mais c'est quoi cette structure ? Donc en fait, il y a plein de choses qui auraient pu être bien, mais tout est raté.
Ariane.
Oui, voilà. Mais écoutez, je vais faire une métaphore assez foireuse, mais tant pis, j'assume. Je trouve que ce serpent serpente beaucoup trop.
Vous parliez
des flashbacks, cette espèce d'entrelac de flashbacks. Alors, au départ, je me suis dit, ok, ça va durcir la tension, etc. Au contraire, moi, je trouve que ça produit totalement l'effet contraire, c'est-à-dire que ça révèle surtout un mode opératoire extrêmement répétitif, puisque le principe, c'est un serial killer, donc c'est emprise, escroquerie, enlèvement, meurtre, et c'est tout. En fait, c'est vraiment un côté cosmétique de tous ces flashbacks, et quand on enlève tout ça, on se rend compte que c'est toujours la même chose, et c'est toujours traité de la même façon. Donc moi, je me suis ennuyée dès le premier épisode. Toi, t'es bien gentil, Benoît. Moi, ça commençait à me casser les pieds assez rapidement. La deuxième chose, effectivement, c'est le personnage. Le personnage, il n'est pas traité, c'est-à-dire qu'on nous dit d'emblée les raisons de ses actes, en gros. Donc, il est opaque, il est froid, et en plus, comme c'est un bêtise qui a été humilié, ce que je peux comprendre comme argument, il veut se venger de la jeunesse occidentale blanche et dorée. Et une fois qu'on nous a dit ça, basta, on ne sait plus rien, on ne comprend vraiment pas les motivations, on reste à la surface des choses. Donc, et puis il y a une dernière chose que tu n'as pas dite, Benoît, moi ça me gêne toujours un petit peu, l'héroïsation des serial killers. C'est-à-dire, parler d'un serial killer, c'est très intéressant, en faire un personnage principal d'une série, c'est très intéressant, mais après c'est le regard qu'on porte sur lui. Oui. Et le regard qui est porté sur lui, c'est un regard quand même qui est quand même passablement flatteur.
Il n'y a pas de point de vue.
Mais non,
il
n'y
a pas
de problème. Quand il n'y a pas de point de vue, ça devient un point de vue plutôt flatteur. Et moi, je trouve que ça dégage quelque chose d'assez malsain. C'est-à-dire que quand on regarde la série, on a un sentiment, moi j'ai eu un sentiment de gêne et d'embarras. Donc, pour finir encore sur une métaphore un peu foireuse, mais c'est pas grave, c'est la série, c'est le cas de le dire. Moi, je trouve que c'est une série un peu Canada Dry. C'est-à-dire qu'elle a les allures et la sinuosité d'un thriller américain de la bonne époque, c'est-à-dire des années 70, et ça se passe effectivement pendant cette période. Sauf qu'elle en a ni le goût, ni la puissance et ni le talent.
Qui se souvient encore de Canada Dry?
C'est moi. Très sucré.
Anna Kane.
Ben non, ben je vais pas ménager le suspense non plus, mais vous l'avez entendu. Hein. Moi, j'aime pas du tout cette série comme mes camarades. Hein. Je trouve que, d'ailleurs, le cachet 70s, il est surfait. Tout de suite, il y a des gros problèmes d'écriture qui s'offrent à nous. Hein. Se croiser, décroiser sur plusieurs temporalités, ça donne le tournis, ça nous perd. Alors, vous allez me dire, c'est un peu le principe de ce thriller qui est découpé donc en huit épisodes.
Mais ça n'apporte rien.
Nous étourdir, nous étourdir comme Charles étourdit ses victimes, c'est la technique des boas, tout ça. Donc d'abord, Charles cajole ses proies, il les séduit, il les met en confiance pour mieux ensuite les abuser, les séquestrer, les dépouiller et les tuer. Et on n'y croit pas du tout. Donc voilà, le problème, vous l'avez dit, c'est qu'on nous répète la même chose sur 6 épisodes. C'est très très lourd. Ça ne raconte donc strictement rien. Alors, on avance un petit peu hein, dans l'enquête et puis l'étau se resserre sur ce psychopathe qui, visiblement, comme beaucoup de psychopathes, n'a pas été assez aimé par sa maman. Et puis on comprend, évidemment, tu l'as dit Ariane, que durant son enfance et son adolescence, il a été victime de préjugés racistes à cause de ses origines asiatiques. Et donc voilà, en tuant ses touristes, il a l'impression de dominer ceux qui dominent. Donc voilà, un taré. Moi, je vous avoue que j'ai eu vraiment du mal à voir Tahar Rahim dans ce rôle. Effectivement, grimé de la sorte, le visage maquillé, sa peau d'une autre couleur. Alors, il arrive quand même, trouvons de petites qualités à ça, à se fondre dans le costume de ce monstre froid. Il n'en fait pas des tonnes. Ça avait tout du rôle à performance quand même, et je trouve qu'il évite cet écueil. Donc voilà, c'est pour moi la seule bonne raison de jeter un œil curieux à cette série. Mais sinon, comme toi Benoît, je trouve que les partenaires de jeu sont pas justes. J'ai un gros problème avec Monique, et même je comprends pas en fait là non plus quelles sont ses motivations. Je ne comprends pas son embrigadement par Charles tel qu'il est présenté. Donc voilà, c'est ni fait ni à faire. Il y a un vrai manque de point de vue. Les mystères sont jamais percés. Donc je reprendrai pas de colle à tarte. De colper à la tarte.
Et merci, c'est pourtant un gros succès sur la plateforme Netflix. The Serpent, donc disponible sur Netflix. Have you ever swam so far enough to breathe? Swim in the ocean, kicking my feet in waves of devotion.
Devotion.
Waves of Devotion, des vagues de dévotion, par Ron, extrait de l'album Run and Friend, sorti en mars dernier. Un album où le musicien français s'est entouré de nombreuses voix amies, parmi lesquelles celle de Dominique A ou encore Camélia Jordana. C'est peu dire qu'il a quand même très très bon goût, le garçon. Hein. Sur ce titre, c'est la chanteuse italienne Giorgia qui pose sa voix sur ses harmonies célestes, nous invitant ainsi à une envoûtante rêverie à laquelle nous avons cédé.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan. Alors pas vraiment un effet miroir classique, mais un hommage tout à fait mérité au comédien Yves Régnier, disparu samedi dernier à l'âge de 78 ans.
Oui, parce que Yves Régnier, quoi qu'on pense de son œuvre et de ses personnages, a vraiment marqué l'histoire de la télévision française depuis 60 ans. C'est au fond un peu comme le Alain Delon est au cinéma pour la télé, Yves Régnier. Il a toujours été là. Et moi je me souviens, j'avais animé une rencontre avec lui au Festival Sérimania il y a 2 ans, et j'avais vu dans la salle comment le public... Regardez, il y avait les fans de Belphégor, les nostalgiques de la série Globetrotter, les téléspectateurs assidus forcément de qui ? Du commissaire Moulin, et mais aussi ceux qui avaient beaucoup aimé Jacqueline Sauvage, car oui, Yves Régnier était tout ça. Il n'a pas été que le commissaire Moulin, son rôle phare pendant plusieurs années, et dont il a endossé plusieurs costumes, j'y reviendrai. Yves Régnier donc fut d'abord en série Le Gendre Idéal, découvert par le grand public dans la série Belphégor, donc c'était en mars 1965, dans le rôle du jeune étudiant André Bellegarde, qui tente de percer le mystère du fantôme du Louvre avec Colette, la fille du commissaire Ménardier, interprétée par Christine Delaroche, et à l'époque, le couple a fait rêver la France entière. C'est peut-être là qu'est née même cette affection réelle et indéfectible entre les téléspectateurs et le comédien. De gendre ou fiancé idéal des Français, il deviendra un an plus tard Pierre, un journaliste aventurier dans les Globetrotters, une série signée Claude Boissol, dans une France de la fin des années 60 qui rêve d'aventure et de découverte. Ça
moi
vous rappelle
ouais.
Vous étiez peut-être amoureuse même.
Petite, oui, je le trouvais très beau.
Il y aura une quarantaine d'épisodes tournés un peu partout dans le monde, ce qui était très rare pour la télévision française à l'époque. Et c'est peut-être là aussi qu'il devient le symbole d'une jeunesse française qui rêve d'émancipation. Alors Claude Boissol, il le retrouvera bien évidemment Yves Régnier pour incarner le célèbre commissaire Moulin, qui à son arrivée en août 1976 sur TF1 est une véritable révolution sur un air de François de Roubaix. Oui, parce que jusque-là, le polar à la télé française, c'était le cluedo sociologique des 5 dernières minutes et le bon Jean-Richard mais pépère Maigret avec sa bière et son sandwich. Commissaire Moulin, première époque, est d'ailleurs écrite par des scénaristes talentueux autour de l'auteur de romans policiers Paul-André Hotta. Leur but était de rajeunir en fait la série policière tricolore et ça marche. Au bout de quelques épisodes, Régnier pousse même à ce que son personnage endosse un blouson de cuir. Puis chevauche une moto pour que son flic de fiction colle un peu plus à l'image des jeunes policiers qui entraient dans le métier à l'époque. Et ça donne au passage une série plus proche finalement des séries américaines de l'époque. Cette première époque dure jusqu'en 1982 mais s'arrête car entre Yves Régnier et les auteurs, rien ne va plus. Alors les rediffusions tout au long des années 80, cartonnent, du coup ça donne envie au commissaire Moulin de revenir. À l'époque du héros récurrent, on est en 1989, il y a Navarro, il y aura Julie Lescaut, et donc le commissaire Moulin revient. Ce retour pour Yves Régnier, il décide de faire appel à un ex-flic devenu romancier pour écrire les épisodes, il s'appelle Georges Moréas, et il écrit des épisodes où dans cette seconde période, le personnage deviendra un justicier décrié, car souvent borderline, dans la lignée de Rick Hunter, vous savez, le flic américain. D'ailleurs, il a été aussi la voix, Yves Régnier, de Rick Hunter, tous les dimanches après-midi. Et c'est à noter parce que, en fait, ce qui était intéressant, c'est que non seulement bon, il était borderline, mais les séries, et pendant la série policière, c'est assez nouveau, les enquêtes sont beaucoup plus réalistes. Et d'ailleurs, beaucoup de flics se reconnaissent un petit peu dans ce personnage, et ça annonce, en quelque sorte, des flics à la Braco, comme on peut les voir, incarnés par Olivier Marchal. Alors Moulin s'arrêtera définitivement au milieu des années 2000, mais Yves Régnier restera. Il aura sa saga de l'été dans Dolmen, on le reverra comme récemment dans Léo Mattei. Il apparaîtra en guest dans Plus belle la vie et puis sera surtout réalisateur de téléfilms inspirés de faits réels. Il s'intéresse au monde pénitentiaire, dans Médecin chef à la santé, aux grandes affaires policières et judiciaires dans lesquelles il redonne une véritable place aux victimes, comme par exemple dans Jacqueline Sauvage. Intéressant donc parcours que celui d'Yves Régnier, qui a joué et réalisé dans des fictions à l'image des évolutions de la société française et aura incarné une certaine idée du justicier français dans toutes ses dimensions, des plus lumineuses aux plus sombres et complexes. Avec la disparition d'Yves Régnier qui n'a pas existé donc que pour et par Moulin, c'est tout un pan en fait de l'histoire des séries Télé Française qui s'est éteint avec lui et moi, au fond, ça m'a touché.
Merci beaucoup, Benoît. Pour le plaisir, vous nous refaites maigrir bière et sandwich.
Avec la bière et les sandwich.
Oui. Eh bien, restez-en à la critique de série.
Non,
c'était les films miroirs, la chronique de Jean Alagan avec un accent inopiné.
On salue nos amis belges.
Appréciez la teneur. En tout cas, vous pouvez réécouter cette chronique en podcast, bien évidemment, ou en rediffusion tout à l'heure, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'heure de à 2h30 exactement. Je vais y arriver. Vous êtes bien dans une heure en série sur France Inter avec Ariane Allard, Ava Cahen et bière et sandwich, Benoît Lagarde.
Bon appétit.
Troisième débat, Fatma Gül sur Sisplay, une série turque uniquement disponible, mais sans abonnement payant ni supplémentaire, sur le replay de M6. Une série de 186 épisodes de 45 minutes. Je vous rassure tout de suite, je ne leur ai pas demandé de regarder l'intégralité. Le débat va porter sur les premiers épisodes. Et dont le titre original est très explicite. Quel est le crime de Fatma Gül ? Alors, c'est un détail de traduction, mais qui a son importance puisque ce titre interpelle directement une société sur un sujet ô combien tragique, qui est le viol des jeunes femmes et l'abject code d'honneur qui sévit au lendemain de ces agressions. Fatma Gül vit dans un petit village côtier de Turquie, un lieu pittoresque, baigné par le soleil, idéal contrée pour aiguiser les appétits des promoteurs qui rêvent de récupérer, de spolier plus exactement les autochtones de ces terres et qui ne rapportent donc rien pour y édifier d'hégémoniques complexes hôteliers qui rapporteront beaucoup, beaucoup de sous. L'un de ces odieux capitalistes est d'ailleurs de retour pour les fiançailles de son rejeton, rejeton qui, avec ses amis, passe son temps à boire et à prendre de la drogue. C'est dans cet état second qu'ils vont croiser un matin la route de Fatma Gül et l'agresser sexuellement. Mais de victime, Fatma Gül devient très vite celle par qui le scandale arrive, son fiancé se rangeant derrière la culture patriarcale, choisit d'ailleurs de la quitter.
Comment est-ce que je peux te résister ?
Termine vite la maison et marions-nous.
Oui, c'est promis. Ensuite, nous ne quitterons plus la maison pendant des mois.
T'es bête.
Je t'aime tellement, Fatma Gül.
Et moi alors ?
Hé, c'est encore cette fille. Hé, attends ici. Je tiens un truc.
Arrête. On ne te fera rien.
Et si un de ces gars accepte d'assumer toute la responsabilité, ça peut tout arranger.
Adapté du roman éponyme de Vedat Türkali, Fatma Gül est une série soap telenovelas, mais sociétale au long fleuve, interprétée par Beret Sarat, Engin Akiyurek et Firat Çelik. À noter qu'un remake intitulé Alba vient de débuter cette diffusion en Espagne. Ça n'est pas totalement innocent. Nous n'avons donc regardé que les premiers épisodes. On est vraiment dans la telenovela. Vous l'avez déjà un peu perçu à travers la bande-annonce.
Ben oui.
Dès qu'on ouvre une porte, il y a un zoom et il y a une musique lyrique qui démarre. Autant vous dire que la musique, elle est omniprésente. C'est du soap, ça pique un peu les yeux et en même temps, on est quand même fasciné et intéressé par l'emploi, la référence à un genre ultra populaire de la télévision, en Turquie mais ailleurs aussi, pour dénoncer quand même très frontalement le sort qui est fait aux femmes et en particulier aux femmes violées. Ava.
Ben oui, c'est ça. C'est qu'au début, on se demande si on va tenir le coup, hein, parce qu'on est vraiment dans du gros soap qui tâche, hein, avec la panoplie complète, la musique au kilomètre, des notes de piano et mandoline, ultra répétitive, une mise en scène très telenovela, les dialogues, c'est pas du Shakespeare non plus. Quant aux personnages, ils sont de prime abord assez caricaturaux. Fatma Gül, c'est une jeune femme qui travaille dans une crèmerie, qui a tout de la Cendrillon moderne, hein, avec en prime une belle-sœur jalouse et cupide qui lui jette le mauvais œil en permanence. Elle est amoureuse d'un pêcheur qui a les yeux bleu comme l'eau de la mer, il projette de se marier.
C'était Pierre Cossot.
Complètement. Ah, et puis le débardeur blanc, évidemment, de Brando, dans Tramway nommé désir, tout ça. Donc voilà. Il y a aussi un forgeron au regard de braise et à la chevelure noire corbeau. Alors il faut quand même globalement dire que les personnages sont très chevelus dans cette série.
Il y a toujours un petit vent qui va justement perturber la permanence.
L'Oréal, voilà, c'est ça. Alors il a de mauvaises fréquentations, hein, ce forgeron, hein, puisque lui, il était avec des jeunes hommes qui étaient à l'école avec lui, qui portent des montres en or, qui se comportent comme des enfants rois, comme des porcs. Donc voilà, il est question de choc des cultures, de rencontres entre deux mondes. Vous l'avez dit Xavier, celui des travailleurs, des habitants de ce village côtier où se passe l'action, et celui des hommes affaires véreux et leur progéniture qui viennent salir et souiller tout ce qu'ils touchent. Et donc malgré cet enrobage en fait un peu cliché, un peu sucré, eh ben ça marche. La série, elle a fini mais complètement par me happée, je n'arrivais pas à décrocher, parce que sous ces herniers œufs, et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle aborde effectivement des sujets très contemporains,
et puis
encore tabous,
hein.
Exactement, ouais. Frontalement, et ces sujets sont encore tabous malheureusement en Turquie, donc voilà, la violence faite aux femmes, les violences pardon, la manière dont on rend coupable effectivement les victimes, l'impunité des crimes commis par les hommes bien nés, et la protection dont ils jouissent, donc tout ça la série le dénonce aussi très frontalement, je trouve, à travers le portrait qu'elle fait de Fatma Gül, donc cette jeune femme solaire qui va être brisée par cette tragédie. Elle a été écrite par des scénaristes femmes, donc c'est une adaptation, mais elle a été écrite par des scénaristes femmes, et je trouve que ça se sent. D'ailleurs, on a ce fameux female gaze, le regard féminin dont on parle souvent et qui dit, je trouve, qui dépeint très bien la justesse, voilà, du combat de cette jeune femme violée et confrontée au poids du traditionnalisme turc. Donc voilà, un dernier mot sur la comédienne Beren Saat. Je ne sais pas si je dis bien son nom, mais voilà, je la trouve qui joue Fatma Gül. Je la trouve vraiment formidable et c'est pas un rôle facile à tenir.
On parlait des garçons qui avaient des permanentes indéfrisables. Évidemment, je me tourne vers Benoît, qui a la même qualité capillaire. Cher Benoît, Fatma Gül.
Oui, mais je suis assez d'accord avec ce que elle vient de dire. C'est très bien. Bah, du coup, regardez Plus belle la vie. Vous allez vous faire happer de la même manière parce que c'est les mêmes recettes. Oui. C'est ça que je trouve très intéressant dans cette forme de série qu'on appelle soap opera si on est chez les anglo-saxons, mais qui a un ton très particulier, le soap opera, par rapport à la telenovela. Moi, c'est pour ça que je trouve que le mot juste, c'est telenovela, parce qu'on est vraiment comme dans les modèles latino-américains ou brésilien, où il y a toujours des questions souvent de petites
morale,
filles pauvres qui se retrouvent prises entre les mains d'hommes richissimes, et il y a où on a déjà vu des histoires un petit peu de ce genre. Donc c'est passionnant, je trouve, à regarder pour ça, pour comprendre et connaître finalement ce que les téléspectateurs turcs peuvent voir à la télévision, et voir qu'au final, grâce à une fiction de ce genre, on peut raconter des choses fortes. Donc voilà, moi ça m'a plutôt touché. Après, effectivement, si vous aimez ce genre de série quotidienne, donc regardez, et vous en aurez vraiment les 180, combien qu'en d'épisodes ?
186,
voilà. Donc vous savez qu'il y a une fin quand même, hein, a priori, du a moins priori. Sur la plateforme de replay d'M6. Donc voilà, vous pouvez la regarder, comme ça vous regardez Plus belle la vie, Demain nous appartient, et puis vous regardez ça aussi, et ça vous donnera une autre vision du monde aussi, une autre façon de raconter avec les mêmes codes.
Et ça cartonne en Turquie, il me semble.
Et
oui, c'est un énorme succès. Ariane Allard.
Ouais, je suis pas aussi enthousiaste que vous. Moi, j'ai été happée parce que j'étais curieuse, effectivement. Et je suis curieuse de ce paradoxe dont Ava a très bien parlé. C'est-à-dire que c'est à la fois un sujet d'actualité, violent. Et c'est quand même un tabou, le viol, et en Turquie, mais encore chez nous aussi, faut quand même bien dire, c'est quand même juste universel, ça, et cette forme. Mais moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, cette forme, elle m'a un petit peu saoulée. Je veux dire, quand même, c'est quand même une forme très sirupeuse, qui est jalonnée, effectivement, de beaux gosses, formatés et gominés. D'ailleurs, il y a beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus de beaux gosses à poil, torse-poil, on va dire, que de jeunes filles, parce que les jeunes filles, il faut quand même les protéger, voilà.
Donc c'est une série turque.
Oui, c'est une série turque, donc on peut au moins se régaler en regardant ça, même s'ils sont un petit peu. Mais quand même, les acteurs sont en surjeu
c'est quand même
permanent.
Des criminels, Ariane.
Voilà, oui, ils sont présentés de façon assez flatteuse quand même, hein, même si après on se rend compte que c'est des vilains garçons.
C'est des porcs.
Voilà, c'est des porcs même, on peut le dire. Voilà, mais quand même, ils sont tous quand même en surjeu, à part la jeune actrice. Ouais. Et d'ailleurs, tu l'as pas précisé, mais c'est une actrice qui se présente elle-même comme étant féministe. Hein, et en Turquie, je pense que c'est pas évident.
Non.
Donc il faut le dire. Mais à part elle, ils sont quand même tous en surjeu. La belle sœur, cette espèce de harpie absolument invraisemblable.
C'est la marâtre des contes
voilà,
de fées.
Oui, c'est ça. Et ben, en fait, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est dans les archétypes du conte, avec des personnages. Il y a aussi cette personne, cette femme marginale, mais bienveillante, qui est une espèce de quoi, de sorcière. Enfin,
elle travaille avec des plantes,
etc. Ouais. C'est des personnages qu'on voit toujours partout, voilà. Mais moi, j'avoue que je me suis quand même, au bout d'un moment, un petit peu ennuyée, parce que les grands sentiments sont quand même très binaires. Il y a le bien, le mal, il y a rien au milieu. À la fin, c'est quand même outrageusement moralisateur. Hein. Et puis, la question qui est posée, finalement, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de neuf avec du vieux ou avec du réchauffé ? Alors, vous, visiblement, oui. Moi, je suis pas allée, j'ai pas réussi à aller au-delà du 6e épisode, donc ma réponse, elle est un tout petit peu plus nuancée que la vôtre. Cela dit, ça sert une cause juste.
Et oui.
Donc, il faut le dire.
C'est déjà très important. Merci à tous. C'était donc le débat consacré à Fatma Gül sur 6 Play.
Ton télépile et ton prénom. Tu sais très bien que je vais céder la première. Tu sais très bien comment me faire vriller la première. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Tu connais mes envies, j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je veux, c'était la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Je le sens. Comment me faire rêver, tu sais faire. Tu sais très bien comment te défiler, tu sais faire. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Je connais toutes tes vices et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je veux replonger la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête, je le sens.
Indélébile par Iseut, consacrée cette année aux victoires de la musique, la jeune chanteuse de 27 ans fut désignée à juste titre comme la révélation féminine de 2021. Sur ce titre, où elle ne s'embarrasse d'aucun artifice, cristallisant la beauté rocailleuse de sa voix sur une partition simplement interprétée au piano, elle chante un amour tatoué au creux du corps et des draps, une fragrance amoureuse dont elle ne se lasse pas, nous non plus.
France Inter. Une heure en série.
Et on a un peu de temps pour le plateau de télé, tant mieux, nous allons déposer comme ça aux oreilles de nos auditrices et de nos auditeurs nos conseils. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, mais n'hésitez jamais à recommander un livre. Et évidemment, il était fait pour vous, cher Ava, Friends Forever, celui qui a vu tous les épisodes. Et c'est paru chez Mad Books.
Absolument, voilà, bah, toutes les occasions sont bonnes hein, pour parler de ma série préférée, évidemment. Et oui, donc ce livre il y en a eu beaucoup. Alors celui-ci, il se présente, hein, ce livre, comme le guide officiel de la série, vous l'avez dit, édité chez Manabout. J'adore évidemment le sous-titre, celui qui a vu tous les épisodes, qui est un clin d'œil au titre des épisodes de cette série qui commence tous par celui qui. Donc c'est un ouvrage vraiment généreux, hein, de plus de 250 pages, découpé en plusieurs chapitres qui reviennent sur les 10 saisons de Friends, sur le profil de chacun des personnages, sur les intrigues de chaque épisode, sur les principaux décors et lieux de tournage. En prime, on retrouve aussi les vrais et faux CV de comédiens de Joey Tribbiani, et on sait tous qu'il ne sait pas parler français. Souvenez-vous de l'épisode 13 de la saison 10. On retrouve aussi la liste des stars qui sont venus faire une apparition dans la série. Alors, il y a Ben Stiller, Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, Billy Crystal,
Brad Pitt,
Isabella Rossellini. C'était dans l'épisode 5 de la saison 3.
Génial,
et ça nous a tous donné envie de faire notre propre carte plastifiée avec les 5 noms de célébrités avec lesquels on aimerait passer la nuit. Moi, j'ai une petite idée, hein, des noms qu'on pourrait retrouver sur les vôtres, chers camarades. Donc, on peut aussi retrouver, lire des interviews.
Prévisible.
Oui, un petit peu, mais moi aussi. Hein. Donc, voilà, il y a également des entretiens avec le chef décorateur de la série, avec les co-créateurs Martha Kaufman et David Crane. Donc, si vous êtes fan de la série, c'est un livre à avoir dans sa bibliothèque. Et ça remet dans le bain avant l'épisode de Réunion qu'on attend toutes et tous, hein, et dont le tournage s'est terminé mi-avril, vivement 2022.
Ce sera plus un show qu'un épisode de Réunion.
Oui, mais laissez-moi rêver, Benoît Lagarde.
On en parlera bien évidemment, Friends Forever, celui qui a vu tous les épisodes chez Manabooks. Ariane, vous nous recommandez une série qui est sur Apple TV qui s'appelle Trying.
Oui, alors.
Deux saisons à ce jour, hein.
Alors, première saison est en ligne depuis un an à peu près, et ben elle est toujours disponible, et la deuxième saison arrive le 21 mai. Il y a eu un petit changement dans la date, donc je me disais que c'était pas mal de parler, puisqu'on est entre les deux, et de faire voilà. Alors donc, trying, c'est quoi? C'est l'illustration parfaite de ce que l'on appelle aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, une dramédie. Vous savez, c'est ce mot valise qui désigne un drame qui fait rire, ou une comédie qui fait pleurer. Alors, c'est un peu selon l'humeur, peut-être aussi selon le nombre de Kleenex qui sont directement accessibles de votre canapé. Bon, nos amis britanniques sont très habiles en la matière, et de fait, Trying se déroule à Londres, dans le quartier alternatif de Camden, là même où vivent Jason et Nikki. C'est un couple de trentenaires très sympathiques, amoureux, pétillants. Seule ombre dans ce tableau idéal, ils ne parviennent pas à avoir d'enfants. Et se tourne donc vers l'adoption, un parcours difficile qui est raconté ici avec beaucoup de délicatesse et d'humour. Et c'est probablement aussi parce que son créateur s'appelle Andy Walton, il a été lui-même adopté. Et j'ajouterais qu'il est assez rare, sur un sujet aussi poignant, de trouver autant d'élégance et de tendresse. C'est à la fois très réaliste et très malicieux. Donc il y a une très belle qualité d'écriture et des interprètes saisissants de naturel. Et le dernier bonus, c'est surtout l'alchimie. Et ça, c'est rare et c'est formidable. C'est souvent dans les séries anglaises. L'alchimie entre les deux personnages principaux et entre les deux interprètes, qui s'appellent Raph Spall, excusez-moi l'accent, je préfère le faire à la française, et Esther Smith, les deux comédiens principaux. Donc voilà, ça s'appelle Trying, c'est-à-dire essayer, et je dirais même dans leur cas persévérer, parce que c'est vraiment semé d'embûches, mais avec un humour absolument ravissant.
Donc Trying, première saison déjà disponible depuis une petite année
sur Apple TV+.
Sur Apple TV, la deuxième arrive donc 21 mai. Vous nous avez donné envie d'être au rendez-vous. Benoît, elle a fait plus de 9 millions de téléspectateurs qui sont restés extrêmement fidèles. Et ce coach, il n'y a pas eu de perdition, alors
très
que
peu.
Parfois ça arrive. Je veux parler de Audrey Fleurot dans le rôle principal de HPI sur TF1.
Oui, TF1 renouvelle sa case polar du jeudi, elle le fait bien, et du coup, on est content parce que après, il y avait eu, vous savez, le thriller psychologique émouvant La Promesse, signé par Anne Landois, à qui on doit notamment des saisons de Engrenage. Bien voilà, HPI, où là, on est dans la comédie policière. Donc, Audrey Fleurot, elle est HPI, c'est-à-dire qu'elle est haut potentiel intellectuel, elle est surdouée, quoi. Sauf qu'elle tient pas en place, donc elle change de métier, elle change d'homme, enfin voilà. Et puis, un beau jour, vu qu'elle travaille, elle fait le ménage pour la police, elle se retrouve à voir dans un dossier quelque chose qui la chagrine un petit peu, et puis en fait elle découvre que ils se plantent complètement les flics. Du coup elle va décider de les aider. Alors c'est pas nouveau ce genre de comédie policière. Moi ça m'a fait penser un peu aux Deux font la paire qu'on pouvait voir dans les années 80 par exemple.
Avec Kate Jackson
par exemple, cette mère au foyer qui venait en aide aux espions. Donc il y a quelque chose de ça.
Faire la musique.
Oh non, s'il vous plaît. Et c'était voilà. Donc HPI c'est plaisant. Alors, c'est pas nouveau, mais sur France 2, il y a eu Double Jeu, une très chouette série policière, comédie policière, il y a quelques années. L'Art du Crime, qui est encore en production, est dans le même esprit. Voilà, ça fait du bien, la case de polar de TF1, d'avoir ce genre de comédie policière. Moi, j'ai vu vraiment 4 épisodes, parce qu'il y a les deux premiers qui sont passés, mais ont eu de l'intégralité sur Salto, donc j'ai pu aller un peu plus loin pour voir. Et vraiment, je trouve que, comme toute série formule, c'est-à-dire que forcément, chaque épisode renouvelle pas complètement le pacte de départ, mais c'est plaisant à regarder, et on peut regarder en famille. Il n'y a pas beaucoup de séries qu'on peut regarder en famille, et je trouve que là, ça marche.
Au témoin du doute, en plus, c'est pas un remake pour
pas
une
du
fois
tout.
Sur
et
TF1.
Pour, donc TF1, quand vous faites des créations originales, ça paye.
Et Mehdi Nebbou est charmant.
Voilà, j'allais demander à Benoît de citer le comédien. Mehdi, qu'elle écrase un peu quand même.
Elle écrase un tout petit peu,
mais c'est un excellent comédien.
Mehdi Nebbou, excellent, qui joue le rôle du flic, effectivement, qui travaille, donc Audrey Fleurot travaille sous ses ordres.
Taciturne.
Et voilà. Et le duo fonctionne très 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 bien, même si Audrey Fleurot prend beaucoup de place, effectivement. Mais voilà, peut-être que ça va permettre, au fil de la saison et dans les prochaines saisons, que le duo s'affine.
HPI sur TF1. Et vous savez quoi, Benoît? Je suis d'accord avec vous et j'en veux un peu à TF1.
Mais moi aussi,
de ne pas nous
dingue.
Avoir prévenu assez tôt pour que nous puissions la programmer, parce que je pense que ça aurait fait un débat quand même extrêmement intéressant. Mais voilà, une heure en série, c'est désormais fini. Ouais, sortez les mouchoirs, pleurez. Mille merci à vous, chère Ariane, chère Ava et chère Benoît, d'y avoir participé. Et merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé The Grave, un peu moins The Serpent sur Netflix. Et on a été mitigé, mais en tout cas interpellé par Fatma Ghoul sur
Curiosité.
Voilà. Curiosité, mais qui a quand même du fond. Oui. La semaine prochaine, nous évoquerons The Nevers sur OCS, série dont nous sommes d'ailleurs partenaires à France Inter, et Them sur Prime, donc du genre la semaine prochaine, des apparitions, des choses fantastiques, des super pouvoirs. On adore ça. Rendez-vous demain avec Jérôme Garcin, bien sûr, pour Le Masque et la Plume qui sera consacré au cinéma. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion dans quelques heures dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Il y a un site internet, il y a la possibilité de nous envoyer un courrier. Et maintenant, grâce à Malo Morcel, qui est notre stagiaire, un compte Instagram, il nous fallait un gène pour entrer enfin dans le 21e siècle. Et c'est un compte qui s'appelle Une heure en série officielle. N'oubliez pas le S entre série et officielle. Réalisez cette émission comme toujours, et je sais si elle est indispensable à sa réussite, Marie-Annick Rimbaud à la programmation musicale, Muriel Perret qui nous a particulièrement gâtés cette semaine. J'ai préparé cette émission avec Amel Galdi et ce soir à la technique le très sérifile Ludovic Asselot.